Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, vous vous rappelez que nous sommes dans la deuxième partie de notre étude sur l'Église. Le Christ sanctifie son Église. Nous avons vu d'abord comment il la sanctifie de l'intérieur par le Saint-Esprit. Ensuite, nous avons vu quels sont les canaux par lesquels le Christ passe pour sanctifier son Église. Ces canaux sont la sainte humanité du Christ, Marie, médiatrice universelle, et puis nous avons vu les canaux de la foi, les prophètes, les apôtres et leurs successeurs, les canaux de la grâce, les sacrements et la prière, et puis les canaux par lesquels le Christ dirige son Église. Tout est prêt ainsi pour que l'Église puisse accomplir l'œuvre que le Christ lui a confiée sur la terre. C'est ce que nous devons voir aujourd'hui, ce que le Christ attend de nous. Vous le savez, mes bien chers frères, l'homme a été créé pour honorer, louer, servir Dieu et par ce moyen sauver son âme. Honorer, louer, servir Dieu, voilà ce que le Christ demande à son Église et par conséquent à tout chrétien. En effet, nous définissons l'activité de l'Église à partir de ce que Dieu demande aux chrétiens. Parce que ce n'est que dans l'Église que le chrétien peut accomplir ce que Dieu lui a demandé. De même, l'Église ne peut accomplir son œuvre que si tous les chrétiens s'y mettent. C'est important cela parce que nous avons tendance à considérer le salut du chrétien d'une façon individuelle, individualiste, alors que le salut est une œuvre commune. Imaginez des parents qui voudraient se sauver sans s'occuper de sauver leurs enfants. Ou imaginez un monastère, puisqu'un monastère c'est une petite église en réduction, un monastère dans lequel les moines chercheraient à se sauver individuellement sans se préoccuper du bien spirituel, bien sûr, du monastère, sans se préoccuper du salut de leurs frères. Pour le dire autrement, la raison d'être de toute société est de mener ses membres à leur fin, fin qui est propre à chacun et commune à tous. Autrement dit, mes bien chers frères, il n'y a rien qui ne soit plus personnel que l'œuvre de l'Église, et il n'y a rien qui tienne tant au cœur de l'Église que notre salut personnel. Les deux ne font qu'un tous ensemble. Et d'avoir oublié cela est une des grandes causes des erreurs modernes et surtout des déviations modernes, tant dans la société civile que dans l'Église. Je dis dans la société civile parce que un roi, qui est chef de la société civile, doit évidemment être chrétien, puisque lui aussi est appelé au royaume de Dieu. Et comme un père de famille, il doit se préoccuper du salut de ses sujets, et on ne peut pas concevoir un roi qui se désintéresserait du salut de ses sujets, pas plus qu'un père de famille qui se désintéresserait du salut de ses enfants. Et par conséquent, on ne peut pas imaginer une société, même civile, qui n'aurait pas pour fin, pour but, de faire pratiquer la vertu au sujet, qui n'aurait pas pour objet de leur faire pratiquer ce que l'Église attend d'eux dans le monde. Cette conception de l'Église, c'était celle de Mgr Lefebvre. Il ne nous a jamais donné de cours de philosophie politique. Le cours que nous avons reçu sur l'Église, il faut bien le dire, n'était pas le meilleur des cours que nous avons reçus au séminaire. Ce n'était pas Mgr Lefebvre qui le donnait. Si ça avait été lui, justement, ça aurait été autre chose. Mais, et ça, il faut le reconnaître, c'est une richesse extraordinaire, Monseigneur Lefebvre nous a impliqués dans l'œuvre de l'Église, et de même, il impliquait les fidèles dans l'œuvre de l'Église. Il n'est que de lire le guide du chevalier, qu'il écrivit à la demande d'un ordre de chevalerie contemporain, ou bien de lire la règle du tiers ordre de la fraternité Saint-Pilis, ce guide et cette règle qui sont pour les laïcs et qui ont pour principale, presque unique préoccupation d'impliquer les laïcs dans l'œuvre de l'Église. Lui-même était impliqué au plus haut point et c'est pour cela qu'il a su répondre correctement aux mauvaises demandes des papes. Ce que vous me demandez va contre le bien de l'Église, je ne peux pas le faire. C'était la première demande de fermer le séminaire, qui apparemment n'allait pas contre la foi. Après cela, il y eut des demandes contre la foi. Alors là, c'est facile de répondre, je ne peux pas aller contre la foi. Mais les premières demandes n'étaient pas vraiment contre la foi, ou bien indirectement. Mais elles étaient contre le bien de l'Église. Et là, Monseigneur, qui avait reçu cette grâce de Dieu de comprendre la nature de l'Église et l'union de tous les chrétiens dans l'Église, Monseigneur a su répondre qu'il ne pouvait pas faire ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire fermer le séminaire, parce que cela aurait été nuisible à l'Église tout entière. Je ne fais tout de suite que répéter ce que je vous ai dit dans le sermon sur le carême pour toute l'Église. Je ne fais que vous donner les principes au nom desquels la Sainte Vierge nous a demandé à Fatima prière et pénitence pour la conversion des pécheurs, d'une part, et puis de faire réparation pour les péchés, offenses et négligences sans nombre contre le respect dû à la Sainte Eucharistie et contre le respect dû à son cœur immaculé. Si j'insiste sur cet enseignement, c'est parce que d'une part, grâce à Monseigneur Lefebvre, nous l'avons redécouvert, mais c'est parce que dans les épreuves de l'Église, cela vous trace une voie à suivre. Bien, après cette longue introduction, venons-en au corps du sermon. L'homme a été créé pour honorer, louer et servir Dieu. Honorer, c'est la vertu. Louer, c'est le culte. Servir, c'est l'extension et la vigueur de l'Église et, par conséquent, l'établissement de la chrétienté. Si vous le voulez bien, nous verrons aujourd'hui uniquement honorer Dieu, la vertu. Là encore, quelque chose bien oublié et par conséquent bien difficile à comprendre. Nous avons l'habitude d'envisager nos devoirs de chrétiens uniquement par rapport aux commandements, mais n'oublions pas que les commandements sont dits repères, donnés dans les tout premiers temps de l'Église, c'est-à-dire au peuple juif dans l'Ancien Testament, qui n'avait pas encore une connaissance aussi parfaite que nous, du Christ bien sûr, qu'il n'entrevoyait que dans les brumes de l'avenir. Pas Abraham bien sûr, ni Moïse, ni David, qui eux en avaient une très très claire connaissance et certainement meilleure que celle de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Et par conséquent, à ce peuple qui n'avait pas encore profondément pénétré le mystère de la charité de Dieu, un peu comme un enfant n'a pas pénétré le mystère de la charité de sa mère, de l'amour maternel, il fallait 10 guides, 10 repères, donc 10 commandements. Mais dans l'Église, depuis que le Christ est venu, je vous l'ai dit cela, la loi du chrétien, c'est le Saint-Esprit en personne, c'est la loi d'amour. Saint Augustin dit « aime et fais ce que tu veux », qu'il ne faut évidemment pas traduire « aime et fais des caprices », mais qui signifie « l'amour te montrera ce que tu dois faire ». Monseigneur Lefebvre nous expliquait avec saint Thomas d'Aquin qu'on pourrait également connaître les devoirs du chrétien à partir des inspirations du Saint-Esprit. Mais cela, c'est très élevé, c'est réservé à des grands saints ou à des personnages importants dans l'Église. Pour la majorité des chrétiens, ce que nous avons à faire pour honorer Dieu, c'est ni les commandements ni les dons du Saint-Esprit qui nous fourniront la règle, c'est la vertu. Comment vous expliquerai-je cela? Je prendrai la comparaison avec un père de famille. Il faut qu'un père soit fier de ses enfants. C'est normal. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il a des enfants, c'est de se survivre en eux, de continuer les qualités, donc les vertus, qu'il a lui-même reçues de ses parents. Or, qu'est-ce qui fait qu'un père soit fier de ses enfants? Si le père a le souci du monde, il sera fier que son fils tienne une place élevée dans la société, qu'il soit général, qu'il soit un très grand chirurgien, que sais-je. Si le père de famille a véritablement le sens de ce qu'est la qualité de la vie chrétienne, il sera fier de ses enfants si ceux-ci sont vertueux. Il sera fier d'avoir des enfants qui pratiquent les œuvres de miséricorde, qui les pratiquent avec humilité, avec oubli d'eux-mêmes, avec bonté. Pratiquer les œuvres de miséricorde, c'est le fruit de la vertu de charité. Avec oubli de soi-même, c'est le sacrifice. Avec humilité, c'est la vertu d'humilité. Avec le souci de faire du bien, c'est la grande, magnifique vertu de justice et surtout la vertu de religion qui consiste à servir le Christ dans le plus petit de ses membres. Rappelez-vous le jugement dernier. « Venez à la droite les bénis de mon Père, car j'ai eu faim, j'ai eu soif. En effet, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Un père de famille sera fier d'avoir un fils prêtre, bien entendu, mais il sera fier également d'avoir un fils ou une fille religieux ou religieuse. Bien sûr, le religieux ou la religieuse n'ont pas un poste si éminent dans l'Église, mais ils pratiquent les belles vertus de se consacrer à Dieu, de l'humilité, de l'oubli de soi-même. Vous voyez bien, mes bien chers frères, qu'en vous prenant ces exemples et en vous faisant ce tableau, je pense que vous comprenez d'emblée qu'effectivement, ce sont les vertus des enfants qui font la fierté du Père et non pas le poste qu'ils occupent avec plus ou moins de gloire. Vous me direz, on peut être un général vertueux. Oui, bien sûr. Mais là, c'est l'occasion de vous faire remarquer encore quelque chose sur la vertu. Beaucoup commencent par définir que tel fils doit devenir général et après ça, lui donne la vertu pour qu'il soit un bon général. Et c'est prendre les choses à l'envers. Parce que pourquoi un enfant deviendrait-il général? La cause, c'est la défense de la chrétienté. La défense de la chrétienté, c'est l'exercice d'une vertu. Donc, on choisit un métier pour être vertueux. Vous me direz alors pourquoi choisir d'être maçon plutôt que charpentier? Mais parce que on se rend compte que on a le plus de possibilités dans tel métier, la maçonnerie pour notre exemple, qu'on a plus de possibilités de servir l'Église, d'élever les enfants en bons chrétiens qu'en choisissant un autre métier. Parce qu'il y a une humilité à reconnaître les dons que Dieu nous a donnés et à reconnaître ceux qu'il ne nous a pas donnés. J'ai téléphoné à la banque il n'y a pas longtemps pour un problème sur mon compte. Et puis, répond au téléphone évidemment par le directeur de la banque. Et le brave homme, à la voix jeune, qui me répond, n'arrive absolument pas à comprendre ce que je voulais dire. Et au bout de quelques minutes d'incompréhension, il me dit, ah, « Je vais vous passer le directeur de la banque, il est beaucoup plus intelligent que moi, il saura vous répondre. » Je n'ai pas eu l'occasion de le lui dire, mais que sa réponse m'a fait plaisir. Voilà un homme qui n'a pas honte de dire qu'il n'a pas l'intelligence du directeur de la banque, qui reconnaît ses limites, qui a choisi son métier en fonction de ses capacités et non pas en fonction de ses désirs, enfin je suppose. Cette remarque a éclairé toute ma matinée, et je me suis dit, ah mon Dieu, si vous pouviez, je ne sais pas, je ne le connais pas cet homme, et je ne le connaîtrai jamais, si vous pouviez faire en sorte que pour vous aimer il ait la même vertu que cette humilité dont il a fait la preuve. Un autre très bel exemple de vertu, il vient de sortir sous forme de film une commémoration du martyr de ces Égyptiens, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a, je ne sais pas, 5 ou 10 ans, 21 exactement, Égyptiens, coptes, donc chrétiens, ont été martyrisés par des islamistes sur le bord de la Méditerranée. Ils étaient tous affublés d'une combinaison orange, signe de damnation. Et les islamistes ont filmé leur exécution au couteau, la gorge tranchée, sur le bord de l'eau. Ce film de leur martyr avait évidemment fait le tour du monde, et puis a été supprimé de tous les réseaux, de toutes les télévisions, sous prétexte de ne pas montrer de crime, en réalité, pour ne pas susciter de réactions négatives à l'islam. Donc dans ce film commémoratif qui vient de sortir, on interroge les parents de ces martyrs. Et celui qui interviewe un des pères de famille lui dit « Que feriez-vous si vous rencontriez l'assassin de votre fils ?» Et ce père répond « Eh bien, je prendrai la main droite de cet homme, celle qui a tenu le couteau. » Ce faisant, il prend la main du journaliste qui l'interroge et il va mimer ce qu'il ferait. « Je lui prendrai la main, je la baiserai et je lui dirai « Je vous remercie d'avoir envoyé mon fils au ciel. » Bien, j'arrive à la fin de ce sermon. Je n'ai pas traité tout ce que je voulais vous traiter, mais ce n'est pas grave. J'espère vous avoir montré que la vertu est primordiale. Que la vertu n'est pas un moyen de faire quelque chose, elle est la fin, elle est la raison d'être pour laquelle nous faisons telle ou telle chose. Dites-vous que, du haut du ciel, le Christ se réjouit lorsqu'il voit des pères de famille qui savent pardonner aux bourreaux et se réjouir d'avoir un fils martyr. Le Christ se réjouit avec les anges, non pas que tel ou tel chrétien soit forgeron, charpentier ou que sais-je encore, mais qu'il pratique la miséricorde, la justice, la bonté, l'humilité, qu'il se mette au service de l'Église, au service de ses enfants pour le salut des enfants. Bref, ce dont le Christ se réjouit et ce qui fait la beauté de l'Église, son épouse, c'est la vertu de ses enfants, les enfants de l'Église. Vous voyez, mes bien chers frères, une nouvelle fois, que ce sermon, qui commence comme un cours de doctrine, s'achève sur des considérations très riches pour votre vie chrétienne, particulièrement en ce temps de carême. Et c'est évidemment parce que nous n'avons plus de doctrine ou parce que les prêtres, n'ayant plus assez de doctrine, ne savent pas vous guider. C'est à cause de ce manque de doctrine chez vous ou chez les prêtres ou même, hélas, aujourd'hui chez les évêques que l'Église va si mal aujourd'hui. Le remède, il est tout simple. Pratiquez la vertu. La prochaine fois, je ne sais pas encore si nous continuerons à développer le thème de la vertu ou si je vous parlerai de la croix, au pied de laquelle se concentre toute la vertu chrétienne, qui est la source de toute la vertu chrétienne, et la croix qui, on peut dire, est universelle, qui est la grande œuvre de l'Église dans le monde. Alors, préparez-vous bien à vous mettre au pied de la croix par un bon carême, avec l'aide de la Très Sainte Vierge Notre-Dame des Sept Douleurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.